Et donc, à la fin encore de notre passage, verset 32 à 34, je voulais encore vous faire remarquer une autre chose. Donc, Jésus qui est ce bon berger qui prend soin de ses brebis. Et alors, ce qui est impressionnant avec ces passages sur la multiplication des pains, c'est qu'il est présent dans les quatre évangiles. C'est très rare pour un texte, et c'est pour ça que je me permets de le faire remarquer. Donc, il est présent à la fois dans Matthieu, dans Marc, dans Luc et dans Jean. Et ce qui est intéressant, c'est que chacun de ces récits ne nous présente pas exactement la même histoire. Chacun a envie de mettre en relief un élément précis du texte, et je vous propose de comparer, je sais pas si on voit le texte, ouais, ça vous voit à peu près. J'ai changé de couleur, mais j'hésite toujours, parce que je sais que pas toujours bien de changer de couleur avec le vidéoprojecteur. On voit, et si on compare rapidement avec le passage dans Matthieu, donc Jésus sort de la barque, il a compassion pour eux, et chez Marc, il enseigne beaucoup de choses, alors que chez Matthieu, il guérit les malades. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il y a deux récits différents? Est-ce qu'il se passe deux choses différentes? Pas du tout. Chacun de ces auteurs a voulu mettre en relief quelque chose de spécifique. Et dans notre passage de Marc ce matin, c'est justement pour ça que j'ai appelé notre petite phrase « Jésus enseigne par compassion ». Marc, il a cette volonté de mettre en valeur encore l'enseignement de Christ. Moi, ça m'a marqué quand j'ai travaillé un peu le texte, quand j'ai lu le texte. Souvent, quand on pense à la compassion, on pense de la guérison des malades, de prendre soin, de prendre des nouvelles des uns des autres, n'est-ce pas? Mais Jésus, il enseigne aussi par compassion. C'est une grâce aussi qu'on peut se rappeler, de se dire que on n'a pas juste un Seigneur qui est là pour prendre soin de nous, mais qui est aussi là pour nous enseigner, pour nous former, pour nous permettre d'avancer petit à petit, qu'on reste pas là où on est dans ce qu'on comprend, mais qu'on ait ce privilège encore d'être enseigné. Alors c'est ce qu'on veut faire ce matin, c'est aussi ce qu'on veut faire aussi dimanche après dimanche. Je sais pas si on y repense encore que on a ce privilège de pouvoir s'enseigner encore les uns les autres. C'est aussi une grâce de pouvoir, le dimanche matin, de se réunir, de pouvoir se dire qu'est-ce que le Seigneur a fait pour nous, qu'est-ce que on peut apprendre des uns des autres, les aînés avec les plus jeunes parfois avec les aînés aussi, c'est peut-être un peu plus rare, mais ça arrive. Je pense qu'on est aussi renouvelé dans notre foi par les plus jeunes. Quel privilège de pouvoir encore nous enseigner. Alors, je termine là pour la compassion envers les foules de ma première partie, et je vous propose une deuxième partie, l'incompréhension des disciples. Donc on arrive hein, avec ces disciples qui sont face à cette foule à nourrir. Et moi, personnellement, je trouve que le raisonnement est assez logique. Alors je sais pas quelle vision vous avez de la multiplication des pains. Moi, personnellement, c'est peut-être parce que je suis encore un peu jeune, mais j'ai un peu cette vision un peu enfantine, vous voyez, ces petits dessins avec ce petit peuple, ces petits poissons, ce petit pain, c'est mignon, n'est-ce pas? Sauf qu'en réalité, ça devait ressembler un peu plus à ça, d'accord? Bah en même temps, voilà, le texte nous dit 5000 personnes, 5000 hommes, pardon, ce qui fait, selon les théologiens, parce que les hommes au masculin, n'est-ce pas, forcément, si on compte les femmes, les enfants, ça fait dans les 20 000 personnes. Selon Google, il y a à peu près 20 000 personnes sur cette photo. On n'est plus à 1000 personnes près, honnêtement, franchement, vu la foule. Et franchement, c'est impressionnant. Enfin, moi, je me mets à la place des disciples, je vois cette foule, 20 000 personnes, je me dis, mais il n'y a rien à manger. Enfin, personnellement, moi, quand je lis la parole des disciples qui se disent, il va falloir les renvoyer, j'ai presque envie de dire, c'est une parole de sagesse, hein, quand on voit ça, on se dit, mais on va jamais pouvoir nourrir ça, enfin. C'est énorme. Et puis, comme ils le disent, hein, les sous que ça va coûter, hein, je veux dire, non, mais si on doit aller acheter nous-mêmes tout ça, l'argent, moi, je me suis rendu compte, hein, depuis que j'ai préparé ma prédication de ce matin. J'ai commencé à préparer un mariage, hein. Je vous dis que on commence à faire les comptes pour 100 personnes. Faut pas écouter, ma chère, faut pas écouter. Hein. J'ai 30 secondes, d'accord? Quand on commence à faire les comptes pour 100 personnes et qu'on commence à imaginer ça pour 20 000 personnes, on se dit « Oh !» Ah ouais, non, mais on se met vraiment à la place des disciples, on se dit « Mais ouais, c'est clair, ça va pas le faire, ça va pas le faire. » Et pourtant, Jésus qui dit « Mais donnez-leur vous-même à manger. » C'est impressionnant, impressionnant. Donnez-leur vous-même à manger. Et je pense que si Jésus, à ce moment-là, il veut justement nourrir la foule, c'est pour une raison particulière. Il a quelque chose à enseigner aux disciples. Il a quelque chose à faire passer un message. Parce que il aurait pu écouter les disciples et dire, ah ben, chacun rentre chez soi et puis chacun se débrouille. Non, Seigneur, il avait encore quelque chose à nous partager, quelque chose à nous apprendre. Et c'est pour ça qu'il va faire ce miracle encore. Il a quelque chose à enseigner. Et c'est ma troisième partie, les versets 41 à 44. La multiplication des pains, il y aurait des choses à dire, mais pendant une série de sermons, je pense, d'au moins 5 ou 6 dimanches d'affilée. Vous allez être déçus, je vais pas pouvoir citer tout ce que vous pensiez quand vous pensez à la multiplication des pains, mais je veux juste ressortir 3 enseignements particuliers que Jésus essaie de faire passer, je pense, à ses disciples et à la foule. Premier enseignement, c'est qu'il est le vrai Dieu, le vrai Seigneur des Seigneurs, le vrai prophète. Alors, on le voit dans notre passage, hein, il a nourri la foule pour 5000 hommes, je vous le disais, environ 20 000 personnes. Alors, pour ceux qui n'ont pas forcément une grande culture, et c'est un peu mon cas aussi parfois de l'Ancien Testament, la multiplication des pains, c'est un miracle qui a déjà été réalisé par Élisée. Élisée avait déjà multiplié les pains, n'est-ce pas? Sauf que le miracle n'est pas tout à fait pareil, 20 pains d'orge, d'accord, pour 100 personnes. Alors c'est déjà impressionnant, réussir à nourrir 100 personnes avec 20 pains. Mais là, on a le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Là où les prophètes, ils ont, on va dire, déjà un beau miracle, n'est-ce pas? Nous, on a Jésus-Christ qui est 5 pains, 20 000 personnes. Il est largement au-dessus de tous les autres prophètes qui ont déjà été présents. Tous les autres prophètes de l'Ancien Testament, j'ai envie de dire, il lui arrive pas à la cheville, n'est-ce pas, niveau miracle. Notre Seigneur, il est largement au-dessus de ça. Et c'est une manière pour Christ, là, de mettre en valeur encore sa divinité. C'était le premier enseignement que je voulais un peu mettre en valeur dans notre texte. Deuxième enseignement que j'ai eu à cœur de vous partager encore ce matin. La nécessité d'enseigner les disciples. Alors, il leur propose aux disciples donc de les nourrir eux-mêmes. Et en fait, il va utiliser les disciples pour son miracle. Il va proposer aux disciples, il va prier, il va bénir le pain et les poissons. Et plutôt que de le distribuer lui-même, il va les donner aux disciples qui eux-mêmes vont ensuite nourrir la foule. Et c'était je pense en tout cas pour Christ, une manière de montrer aux disciples la nécessité qu'ils avaient de faire partie en fait de message, de la mission de Christ lui-même. Les disciples, ils vont continuer en fait à nourrir encore et encore la foule. D'ailleurs, je pense que... Alors, il y a beaucoup de chiffres hein, dans notre passage. 5000 hommes, 12 paniers qui restent à la fin. Je ne fais pas forcément un détail spécifique de chaque chiffre, parce qu'il y a plusieurs compréhensions possibles des chiffres, mais j'aime beaucoup les 12 paniers qui restent, un pour chaque disciple. Les disciples qui vont continuer toujours et encore à répandre ce pain, à répandre cette bonne nouvelle, à répandre le message de Jésus-Christ. Et là, Jésus veut leur montrer que c'est pas juste lui-même qui va travailler, c'est pas lui-même qui va avoir compassion de la foule, il veut enseigner ses disciples à avoir eux-mêmes compassion de la foule. Il veut leur enseigner à prendre la relève de son rôle, il veut les former encore, leur montrer, c'est vous qui allez continuer encore ce que j'ai commencé à faire. La multiplication des pains, la parole que j'ai commencé à répandre à travers ma personne, c'est vous qui allez encore la propager. Et encore aujourd'hui, 2000 ans après, on est encore là, en tant que disciples, à propager encore cette parole. On a encore cette joie, en fait, de continuer cette multiplication des pains encore aujourd'hui. Et je pense que c'était encore un deuxième élément que je voulais mettre en valeur, la nécessité pour les disciples de participer à la multiplication des pains. Troisième élément que j'ai envie de vous partager ce matin, on a vu, Jésus-Christ, il est pleinement Dieu, il veut partager cette bonne nouvelle, il veut la faire répandre à travers ses disciples. Et ce qu'il veut tout particulièrement faire, c'est renverser le châtiment de Dieu. Parce que c'est ce qu'il est venu accomplir à la croix. Et je vous propose la lecture de Genèse 3:19. C'est la sueur de ton visage que tu mangeras du pain. Alors je sais pas si vous arrivez à remettre ce passage dans le contexte. On a Adam et Ève, n'est-ce pas? Dans le jardin, ils ont péché, ils ont pris le fruit. Et comme condamnation, Dieu a dit à l'homme qu'il allait devoir travailler dur pour pouvoir avoir son pain. Il allait devoir travailler avec difficulté, retourner à la terre dans le labeur. Et c'est là où on arrive à ce verset, donc c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain. Et là, Jésus-Christ, il fait quelque chose d'impressionnant. Il renverse ce châtiment. Il a réussi à nourrir 20 000 personnes. Et ces 20 000 personnes, il n'y a aucune qui a eu besoin de travailler pour se nourrir. Il n'y a eu aucune personne qui a eu besoin de fournir un dur labeur, aucune personne qui a eu de difficulté pour manger ce pain. C'est Jésus-Christ qui est ce pain de vie. Comme je crois que c'est Georges qui nous a partagé encore tout à l'heure, Jésus qui est le pain de vie, qui nourrit la foule, qui vient renverser le châtiment de Dieu à la croix, qui vient prendre sur lui la faute qui a été commise par Adam et Ève il y a déjà bien, bien longtemps. Et c'est encore ce que Jésus il voulait sans doute montrer. Alors, je pense pas que les disciples ils l'aient compris tout de suite, mais c'est vrai que c'est souvent comme ça, je trouve, pour les pauvres disciples. Ils étaient soumis à plein de choses, soumis à plein d'enseignements. Ils comprenaient pas tout. D'ailleurs, le texte nous le dit, hein, verset 52, « Car ils n'avaient pas compris le miracle des pains, parce que leur cœur était endurci. » Et c'est vrai que nous aussi, parfois, on reçoit beaucoup d'enseignements, on entend beaucoup de choses, et on a le cœur parfois endurci, n'est-ce pas? On n'a pas forcément toujours le cœur ouvert à se laisser enseigner. Pourtant, on a ce Dieu qui est plein de compassion, qui nous répète les choses, qui veut nous enseigner de mille manières. Mais nous, on n'a pas toujours forcément le cœur ouvert. Alors que ce matin, on puisse encore avoir... être renouvelé peut-être, être touché encore par ce que Dieu veut à nous dire, et surtout qu'on puisse se laisser enseigner aussi par tout ce qui nous touche dans notre quotidien, à travers nos lectures, à travers nos prières. Notre Seigneur, il se lasse pas, n'est-ce pas, de vouloir nous partager des choses. C'est vrai, moi je repense à mon élève, hein, quand je tombe face à cet élève qui est en train de taper avec un marteau sur une vis, et je me dis « Oh là 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 !» Quelle difficulté, que de chemin encore à parcourir, mais nous on est un peu parfois ses élèves, n'est-ce pas? On est un peu... Jésus nous a déjà tellement enseigné des choses, tellement il a voulu nous changer notre cœur, tellement il a voulu encore nous partager des choses. Mais il est plein, plein, plein de compassion. Et c'est vrai que c'est pas toujours le cas dans mon travail, je manque peut-être un peu de compassion vis-à-vis de mes élèves, mais nous on a ce bon berger qui continue à avoir compassion de nous, qui continue à vouloir nous enseigner, qui continue à vouloir nous montrer encore tout ce qui a changé dans notre vie. Donc c'était là le troisième grand point que j'avais envie de vous partager, la divinité du Christ, donc la nécessité pour les disciples de faire partie encore de ce message que Jésus a annoncé, et le message en question, sa mort sur la croix, son renversement du châtiment de Dieu. J'en arrive à ma quatrième grande partie. On revient de nouveau sur la compréhension des disciples. On va dire qu'ils sont têtus, hein, un peu comme nous parfois. Ils restent toujours et encore dans leur incompréhension, les versets 47 à 52. Le soir venu, donc début de la nuit, peut-être 20h, 21h, on n'est plus à une heure près, vous allez voir. Jusqu'à la fin de la nuit, il y a Jésus qui prie jusqu'au petit matin. Et pendant ce temps, ses disciples, qui sont sur une barque, en train de taguer, en train de galérer face à... Alors, le texte ne parle pas de tempête, on n'est pas à une tempête comme on a pu le voir dans la prédication de Josué il y a quelques semaines. Pourtant, ils doivent faire face aux intempéries, ils n'arrivent pas à ramer, ils sont perdus. Ça reflète un peu l'état de leur cœur, je pense, d'être toujours un peu en galère, malgré le fait que c'était quand même les disciples de Jésus, qu'ils reviennent, rappelez-vous, hein, on l'a vu au tout début, contexte, ils reviennent d'avoir prêché la bonne nouvelle, ils reviennent, on peut prendre le verset 13, hein, de notre chapitre 6, ils avaient chassé beaucoup de démons, ils avaient appliqué de l'huile à beaucoup de malades, et ils avaient guéri. Les disciples, ils avaient accompli des miracles par grand nombre, ils reviennent encore de d'avoir parcouru les villes et les villages, d'avoir annoncé la bonne nouvelle, et pourtant, ils ont encore le cœur endurci. Ils sont toujours et encore dans cette incompréhension, ils sont toujours dans la crainte. C'est vrai que nous aussi, on a tellement tendance à avoir cette crainte au fond de nous. Tellement on a tendance à parfois être là, à chanter Dieu, à se dire « Oui, c'est bon, j'ai compris, j'ai été enseigné. » Et finalement, non, c'est pas le cas. C'est pas le cas, on est toujours et encore dans cette nécessité d'être enseigné. Et je pense que les aînés me le confirment, hein, n'est-ce pas? Même si on a des décennies avec le Seigneur, on a toujours et encore ce besoin d'être enseigné, d'être renouvelé encore dans l'enseignement qu'on a apporté, parce qu'on est toujours et encore... dans l'incompréhension. Alors il y a des choses qu'on a compris, heureusement, il y a des choses qu'on comprend, il y a des choses qui nous sont dévoilées par l'Esprit que Dieu nous met en nous, mais il y a toujours des choses qui nous passent à côté, qu'on a besoin d'être enseigné encore par Christ. Et Jésus, il est toujours et encore ce bon berger. J'ai juste souligné un petit mot, alors je sais pas si on le voit, ouais forcément on le voit pas, mais c'est pas grave, c'est moi, en grec, c'est le terme qui veut dire, enfin, qui veut dire, qui se dit « Héroïmé », et je me suis enseigné à l'entraîner quand même, « Héroïmé », Ce terme grec, c'est moi, il peut avoir une double signification. Il peut vouloir dire donc c'est moi, mais il peut aussi vouloir dire je suis. Et si on le remet dans un contexte un peu différent, notamment de Marc 14, on a Jésus qui est devant le Sanhédrin, qui est en train d'être jugé avant d'être mis à la croix. Et le grand prêtre l'interrogea de nouveau et lui dit, dis-le, es-tu le Messie, le Fils de Dieu, du Dieu béni? Jésus répondit, je le suis. Ro-aimé, c'est le même terme qui est employé. Et comment ne pas avoir aussi un reflet dans l'Ancien Testament de Dieu qui à Moïse dit « Je suis celui qui est, je suis ». Moi, je m'imagine les disciples qui sont dans leur barque, qui viennent de voir la multiplication des pains, ce grand miracle, qui sont un peu sur un bateau un peu perdu, qui voient Jésus auprès d'eux. Alors déjà, ils sont effrayés, ils sont dans la crainte, et Jésus qui vient auprès d'eux et qui leur dit « Je suis, c'est moi, rassurez-vous. » Il est encore ce bon berger, il vient encore leur dire, mais vous avez toujours pas compris, vous avez le cœur endurci. C'est moi qui suis Dieu, c'est moi qui suis le bon berger, c'est moi qui viens prendre soin de vous. Pourquoi est-ce que vous ne comprenez toujours pas? Pourquoi est-ce que vous ne comprenez toujours pas que je suis le bon berger qui est compassion de vous, qui vous laisserait pas tomber dans la tempête? J'ai déjà arrêté une tempête et je sais pas combien de semaines auparavant, mais il avait déjà calmé la tempête, il avait déjà fait des miracles. Et les disciples qui sont là et qui sont dans l'incompréhension. Mais Jésus qui continue à enseigner par compassion. J'en arrive à ma cinquième partie, la compassion envers la foule. Oui, je sais, c'était déjà ma partie numéro une. Mais si vous l'avez remarqué, en fait, c'est presque envie de dire la phrase de tout mon passage, mais peut-être de toute la Bible, c'est la compassion de Dieu envers la foule, envers son peuple. Jésus qui, au début, était déjà avec ses disciples assiégé de toutes parts par la foule nombreuse, qui traverse le lac, qui se retrouve de nouveau assiégé par la foule nombreuse, qui continue à avoir compassion d'eux, et à la fin de notre passage, toujours et encore, Christ qui a compassion de la foule. Il voit encore toutes ces personnes qui ont ce besoin de lui, qui ont ce besoin d'être enseignées, qui ont ce besoin d'être guéries, là, tous ceux qui le touchaient étaient guéris. Enfin, moi, ça me touche parce que je vois que tous ceux qui le touchaient étaient guéris. C'est vrai que parfois, quand on peut avoir compassion des uns des autres, mais on a parfois tendance à faire un peu le tri dans notre compassion. Je sais pas vous, mais moi, malheureusement, j'ai vite tendance à me dire, ouais, non, mais alors lui, il est bien gentil, hein, mais pas trop envie. Jésus, lui, c'est le bon berger. Il a compassion de chacun. Il a compassion de toute la foule. Il a compassion de tous ceux qui viennent à lui, de tous ceux qui ont ce besoin encore d'être touché par lui. J'en arrive à ma conclusion. J'ai été court, j'espère que chacun l'appréciera. Pour ceux qui ont réussi à suivre, dans mon déroulé de plan, j'ai un peu laissé de côté deux versets. Les versets 45 et 46, où je ne me suis pas forcément arrêté, mais je voulais les garder pour la conclusion. Aussitôt après, il obligea ses disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive, vers Bethsaïda, pendant que lui-même renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il s'en alla sur la montagne pour prier. Moi, ces versets, ils m'ont marqué à la lecture, parce que je me suis dit, mais c'est une chose incroyable. Notre Seigneur Dieu Tout-Puissant, il a passé la nuit du début de la soirée jusqu'au matin, dans la prière. Quelle chose incroyable. Alors c'est pas la seule fois exactement, Chantal, que Jésus prie, mais c'est toujours bon de se souvenir, mais se dire, mais c'est incroyable. Ce bon berger, ce Jésus, ce Dieu Tout-Puissant, il a pris le temps, il a fait un temps mort, une pause dans sa compassion. C'est pas qu'il avait plus compassion, mais il a quand même pris le temps, il s'est arrêté, il s'est dit, là, il faut que je m'arrête, il faut que je prenne le temps d'être avec Dieu. Même si j'ai compassion de la foule, même si j'ai une foule qui est immense devant moi et qu'elle a besoin d'être enseignée, elle a besoin d'être guérie, elle a besoin de moi, je vais quand même prendre le temps. Je vais m'arrêter, je vais me poser et je vais me tourner vers Dieu. Alors si Jésus-Christ, qui est fils du Dieu, qui est déjà en communion, je pense, totalement naturel, totalement incompréhensible pour nous avec Dieu le Père, a quand même pris le temps sur terre, tant qu'il était sur terre, pour prier. À quel point est-ce que nous, est-ce qu'on n'a pas besoin de prier encore? Alors vous allez me dire, je conclue d'une manière un peu évidente, on va dire. La prière, on le sait, c'est évident, n'est-ce pas? On le sait tous, on est tous à fond dans la prière, on est tous en train de prier énormément. Non. je sais à quel point c'est difficile parfois. À quel point parfois on a pas envie de se laisser transformer, à quel point on n'a pas envie de prendre le temps. On a tellement de choses à faire dans notre quotidien. Tellement de choses urgentes, n'est-ce pas? Tellement de choses urgentes. Et parfois des bonnes choses, hein. Parfois des bonnes choses. Mais si Jésus-Christ, dans son ministère, qui était sans doute bien plus important que toutes nos affaires du quotidien, a pris le temps de prier, de s'arrêter une nuit entière, est-ce que nous aussi, on n'a pas cette nécessité encore de nous arrêter dans la prière?